Et voici le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les négociations sont rompues entre Renault et Fiat Chrysler en vue d'une fusion. La France demande plus de temps afin de discuter du projet avec Nissan, ce qui a provoqué le retrait du groupe italo-américain cette nuit, explication d'Annabelle Grelier.
Les commémorations du 75e anniversaire du débarquement allié avec plusieurs cérémonies aujourd'hui, un tête-à-tête entre Donald Trump et Emmanuel Macron est également prévu.
Reportage au Soudan, 3 jours après la répression sanglante d'une manifestation à Khartoum. Notre correspondant Sébastien Nemeth a rencontré l'une des victimes. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, elle porte sur le lieu où nous nous trouvons. Maxime, comment a été conçu ce nouveau studio de France Culture, puisque tout est nouveau, de la moquette au micro.
La fusion entre Fiat Chrysler et Renault n'aura donc pas lieu. Le groupe italo-américain a finalement retiré son offre cette nuit après un conseil d'administration à rebondissement chez Renault hier. L'État français, actionnaire à hauteur de 15%, a tout fait pour garder de l'influence au sein de la future entité et a demandé à Renault de reporter le vote à plus tard sur cette fusion. Un revirement qui n'a pas plu à Fiat Chrysler qui a mis fin au pourparlers. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Maxime.
Comment expliquer la position de la France dans ce dossier ?
Eh bien, d'une part, les relations au sein du partenariat franco-japonais se sont considérablement tendues depuis l'arrestation et la mise en examen en novembre dernier de l'ancien patron Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'exprimant en nom de l'État français, doit donc déjà apaiser la relation avec Nissan. Un déplacement au Japon est prévu en fin de semaine. L'autre crainte pour l'État français est que ce mariage entre égaux aboutisse finalement à faire passer Renault sous pavillon italien. Le projet prévoyait la création, je vous le rappelle, d'une holding basé à Amsterdam et détenu à part égale par les actionnaires de Renault et Fiat Chrysler. Et la famille Agnelli, qui possède 29% de Fiat, eh bien resterait de loin le premier actionnaire, pesant près du double de l'État français. Enfin, il y a la question économique. L'État français dit vouloir s'assurer de la préservation des emplois et des sites industriels. Rajouter à cela une dimension européenne, avec une participation du futur groupe au projet européen de batterie électrique, le montage est complexe, vous le voyez, et mérite sans doute de bien peser les risques.
Évoquons l'avenir maintenant de Renault-Nissan. Annabelle, est-ce que cela veut dire que la fusion avec Chrysler est définitivement hors de la table ?
Non, a priori c'est le jeu classique des négociations, chacun met ses conditions sur la table et puis ça freine le temps d'y voir plus clair. Nous voulons faire cette fusion, mais nous ne la ferons pas à n'importe quelle condition, a prévenu Bruno Le Maire. Il s'agit quand même de créer le troisième groupe automobile mondial. L'enjeu est de taille, économique d'abord. La fusion doit créer un groupe de plus de 30 milliards d'euros de valorisation boursière produisant jusqu'à 16 millions de véhicules par an. Et puis il y a l'enjeu économique pour Renault et Fiat Chrysler. L'idée est d'atteindre une taille critique qui leur permettrait donc de financer les ruptures technologiques qui bouleversent en ce moment l'industrie automobile. Je vous les rappelle, l'électrification, les véhicules autonomes et connectés. Bref, il y a 10 jours, Nissan, qui craignait d'être marginalisé dans l'opération, y voit quand même des opportunités. Et de son côté, Fiat Chrysler a précisé qu'il restait fermement convaincu de l'intérêt de ce projet. Donc pour le moment, rien n'est perdu.
Annabelle Grelier du service économie de France Culture. Un dossier qui pourrait être abordé dans les discussions entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Aujourd'hui, les deux chefs d'État se retrouvent à 13h à Caen pour un déjeuner entre deux cérémonies de commémoration du débarquement allié. Un entretien qui doit durer une trentaine de minutes, insuffisant pour évoquer tous les sujets d'actualité. Et pourtant, les questions à régler sont nombreuses, Nathanaël Charbonnier.
Imaginez résoudre le dossier iranien, mais aussi trouver des solutions à la guerre commerciale qui s'étend à la planète, aux questions de terrorisme, aux conflits au Moyen-Orient, à la préparation du G7 qui aura lieu à Biarritz. Le tout en l'espace d'une demi-heure, cela relève de l'exploit. Et même si l'on rajoute le temps du repas, où là le tête-à-tête s'élargira aux sherpas et délégations, il est évident qu'il ne se passera pas grand-chose. Une sorte d'aveu d'échec. Il semble bien loin le temps des poignées de main interminables et des petites tapes dans le dos. La stratégie du copain-copain voulue par le président français n'a pas permis d'amadouer le président américain. Mais pire, depuis la relation s'est détériorée. Les messages sur Twitter de Donald Trump se sont fait plus désagréables. Et surtout, le président américain a d'autres chats à fouetter, dont un tout particulier, celui de sa réélection. Autant dire que le poids de la France sur le sujet est négligeable et une demi-heure de discussion est après tout largement suffisante.
Nathanaël Charbonnier. Les commémorations du débarquement qui vont débuter d'ici 1h30 à Vers-sur-Mer avec la pose de la première paire du mémorial britannique entre Emmanuel Macron et Theresa May. Ce 75e anniversaire est l'occasion de se souvenir de l'opération Overlord déclenchée le 6 juin 1944. 160 000 hommes, plus de 20 000 véhicules débarquent en Normandie. Pour l'occasion, des dizaines de vétérans vétérans américains ont fait le déplacement aujourd'hui. Ils sont des exemples pour leur nation, affirme Susan Eisenhower, la petite fille du général Eisenhower qui a commandé l'opération alliée.
And impress upon young people their age that they too can change the world.
Je suis très impressionnée que des gens aussi jeunes à l'époque aient pu changer le monde. La plupart de ces hommes qui ont débarqué sur ces plages de Normandie étaient au tout début de leur vie et là-bas ils ont réalisé qu'ils pouvaient accomplir l'impossible. Je trouve ces lieux en Normandie vraiment très émouvants. Chaque année, j'emmène sur place un groupe d'étudiants et je vois combien ça les touche d'imaginer que des jeunes gens de leur âge ont fait cela, ont fait quelque chose de si important. Et peut-être que leur exemple peut donner aux jeunes générations l'envie un jour de faire quelque chose pour leur pays.
Susan Eisenhower qui rend hommage à ses héros de la guerre. On partira d'ailleurs à la rencontre de l'un d'entre eux, Floyd Wakefield. Gregory Phillips l'a rencontré dans sa maison du Maryland. C'est le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h24.
En attendant, il est 7h06, Maxime Fayolle. C'est la suite des matins sur France Culture. Et de leur côté, plusieurs ministres du Travail sont réunis à Paris aujourd'hui et demain pour un G7 social.
Muriel Pénicaud accueille ses homologues américains, canadiens, japonais, allemands, britanniques et italiens. Une réunion de préparation en vue du G7 qui se déroulera à Biarritz fin août. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ce G7 social, Marie Viennot, et notamment la justice sociale à l'heure de la mondialisation. C'est l'objectif affiché par Paris.
La France s'est fixé 5 objectifs pour le G7 de cet été. On retrouve des thèmes habituels, la lutte contre le terrorisme, la promotion de politiques commerciales et fiscales équitables, la transition écologique, les enjeux du numérique et, plus inédit en revanche, la lutte contre les inégalités. La mondialisation a fait des heureux, elle a aussi fait des perdants. Emmanuel Macron le constate dans chacun de ses discours internationaux. Présider le G7 lui permet de mettre cette question à l'ordre du jour et le G7 social qui s'ouvre aujourd'hui est donc la première étape de ce processus, la deuxième étant son intervention dans moins d'une semaine pour les 100 ans de l'Organisation internationale du travail à Genève. Concrètement, la France devrait proposer aujourd'hui que les droits des travailleurs soient davantage pris en compte par les organisations internationales. Autrement dit, que les aides financières du FMI ou de la Banque mondiale ne soient pas accordées en échange d'une dégradation de la couverture sociale. Elle devrait aussi proposer une meilleure régulation des plateformes numériques pour que l'essor de ces plateformes ne soit pas synonyme de conditions de travail indécentes. L'importance de ces sujets ne fait pas débat. La forme que prendraient ces nouvelles régulations est en revanche incertaine. Seront-elles contraignantes ou les engagements des États du G7 seront-ils juste de bonnes intentions? Que demandera Paris à ses partenaires à ce sujet? Elle est là, la vraie question.
Marie Viennot, un G7 social qui se déroule alors que plus de 80 services d'urgence sont en grève en France. Selon les syndicats, cela concerne 82 services sur 120 dans les hôpitaux publics. Le secteur demande plus de moyens, plus de personnel pour travailler dans de meilleures conditions. Une manifestation est prévue aujourd'hui dans tous les services d'urgence en France. Elle partira de la gare Montparnasse à Paris. Le départ de l'un des poids lourds des Républicains, Valérie Pécresse, annonce quitter le parti hier sur France 2. Elle dénonce une structure cadenassée de l'intérieur. Trois de ses proches, Florence Portelli, Maël de Calan et le député Robin Reda, ont également rendu leur carte. À Lyon, c'est le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a été perquisitionné hier. La mairie a également été visitée dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics. Le maire de Lyon est soupçonné d'avoir fait bénéficier à son ancienne compagne de plusieurs emplois municipaux. Gérard Collomb, qui dénonce des informations tant inacceptables qu'intolérables. De la prison ferme pour des manifestants reconnus coupables hier de violence sur des journalistes pendant une manifestation de gilets jaunes. Cela s'est passé à Rouen en janvier. 5 manifestants étaient poursuivis. Ils ont écopé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, Antoine Marette.
6 mois de prison ferme, c'est moitié moins que les réquisitions, mais l'avocat des deux journalistes, Maître Absir, sort de la salle d'audience plutôt satisfait.
Je dois reconnaître que c'est la gravité des faits qui me fait dire que la peine prononcée est une peine assez juste. Le tribunal n'est pas allé dans le sens des réquisitions, qui souhaitait que des peines plus sévères soient prononcées. Donc le tribunal a tenu compte sans doute des personnalités des prévenus, qui avaient pour la plupart d'entre eux une absence d'antécédent judiciaire. Donc voilà, je trouve que c'est une peine assez mesurée et qui correspond bien aux faits qui ont été jugés aujourd'hui.
Le président du tribunal met en avant l'extrême gravité des faits. Il dénonce le déchaînement de violence des 5 prévenus. « Vous ne payez pas pour les autres, vous payez pour ce que vous avez fait », conclut-il en s'adressant à eux. Mais Maître Chalot, avocate de la Défense, est dubitative.
Les peines sont similaires pour toutes les personnes, comme si c'était une responsabilité générale et une scène générale et pas des situations personnelles. Pour moi, on a clairement voulu faire un exemple sur ce dossier qui a attiré l'attention du fait de sa nature. Et évidemment que c'est un dossier qui nous avait tous questionnés, mais on n'a pas pris en compte les situations particulières des personnes et on a jugé bien trop généralement.
Les avocats de la Défense demandaient des relax ou des peines alternatives. Ils ont 10 jours pour faire appel.
Antoine Marette. Au Danemark, les sociaux-démocrates du centre-gauche sont de retour au pouvoir après leur victoire aux élections législatives hier. Le Premier ministre sortant du Parti libéral reconnaît sa défaite, il doit démissionner aujourd'hui. Le bilan s'alourdit au Soudan après la répression sanglante d'une manifestation. C'était à Khartoum lundi. Plus de 60 personnes sont mortes. Une quarantaine d'autres corps auraient été jetés dans le Nil par les forces de soutien rapide qui étaient en première ligne. Cette tuerie est le symbole de la fracture ouverte entre civils et militaires en vue d'une transition du pouvoir au pays. Le reportage avec l'une des victimes lors de cette manifestation de lundi, signé Sébastien Nemeth.
Alors que ses amis mangent devant la porte, Abdourahman Mohamed Awad doit rester allongé. Battu par les militaires alors qu'il était au sit-in, il a des traces de coups sur le corps et des os cassés. Il raconte que deux de ses amis ont été assassinés et jetés dans le fleuve.
Les soldats ont attrapé une femme. Ils lui ont demandé d'écarter les jambes pour la violer. Son frère s'est interposé, ils lui ont tiré dans la jambe, il a résisté et frappé un soldat. Ils l'ont aussitôt achevé. Ils ont violé la fille quand même et ont jeté leurs deux corps dans le Nil.
Lui-même a finalement échappé de peu au même sort.
Ils sont arrivés à 5 heures. Ils nous ont fait asseoir sous un pont. Ils nous ont battus, insultés, accusés de ne pas être musulmans. Ils ont même ordonné à un homme de s'enfuir, puis ils lui ont tiré dans le dos. Ils nous proposaient soit de nous battre, soit de nous abattre et de jeter nos corps dans le Nil. Ils disaient beaucoup de choses, mais il n'y avait aucune humanité dans leurs mots.
À 29 ans, Abdourahman Mohamed Awad s'est engagé dans la révolution alors qu'il était étudiant et rêvait de devenir steward. En attendant de penser à son avenir, il se concentre sur son pays, affirmant que la révolution avait débuté le jour du massacre du sit-in.
Le correspondant de RFI à Khartoum, Sébastien Nemeth. Le temps de ce jeudi, moins de pluie qu'hier, excepté sur la pointe bretonne. Un soleil présent mais souvent caché par quelques nuages ce matin. Les températures relevées du jour de 8 à 12 degrés.
Merci Maxime Fayol, je vois que vous êtes en train de régler votre micro parce qu'on a juste un peu nos nouveaux jouets dans ce nouveau studio de France Culture. Et justement, on va en parler. Comment fait-on pour concevoir un nouveau studio de radio dans quelques instants à 7h12 sur France Culture?